Bernard Stiegler est intervenu dans le cadre de l'UMA Café de Nantes. Il est entre autres l'auteur de « Dans la disruption, comment ne pas devenir fou » et c'est paru aux éditions Les Liens qui Libèrent. Est-ce que vous vous inscrivez dans le courant des collapsologues ?
Non, je dirais pas ça. Enfin, ça dépend de ce que vous appelez collapsologue. Si vous pensez à Jared Diamond, à ce sens-là, oui, parce que il faut étudier l'histoire et il y a eu de grands collapsus, effectivement. Donc, dont ceux qui ont étudié Diamond, mais il y en a eu beaucoup. Il n'y a pas eu que l'île de Pâques ou la chute de l'Empire romain, il y a aussi la chute de l'Union soviétique. Il y a toutes sortes de... Voilà, de processus de ce type. Mais par ailleurs, moi je m'intéresse, disons, aux systèmes dynamiques, à ce qu'on appelle les systèmes dynamiques, un peu dans toutes leurs dimensions, les systèmes physiques, les systèmes biologiques, et les sociétés humaines qui sont aussi des systèmes dynamiques très complexes. Et je m'intéresse aussi aux limites des systèmes dynamiques, voilà, qui sont d'ailleurs des questions qui se posent au XXe siècle, dès le XXe siècle, de manière assez pressante. Le fameux rapport Meadows, par exemple, qui est une théorie de la limite du développement, tel qu'il est conçu en tout cas, et tel qu'il a déjà commencé son processus de mondialisation en 1971. Maintenant, l'horizon dans lequel je réfléchis, c'est ce que j'appelle maintenant la société réticulaire ou l'informatique réticulaire, c'est-à-dire les ordinateurs en réseau, que l'on trouve sur la moitié des corps humains de la planète, hein, puisque un peu moins de la moitié des êtres humains, donc plus de 3 milliards d'êtres humains, sont aujourd'hui producteurs de data avec ces appareils qu'on appelle les smartphones. Et ça crée des éléments de rupture très 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 importants. Plus généralement encore, je m'intéresse, c'est vraiment ça mon travail, à l'effet de la technique sur les formes de vie humaines, pas simplement la technique contemporaine ou la technique moderne. J'ai d'abord travaillé sur les sociétés très très anciennes, c'est-à-dire sur d'ailleurs même des groupes humains qui ne sont pas encore des sociétés, c'est-à-dire la préhistoire, voilà, telle que la concevait et telle que l'a un peu configuré André Leroy-Gourhan. D'ailleurs, c'est très intéressant de lire Leroy-Gourhan aujourd'hui, parce que par exemple en 1964, André Leroy-Gourhan, en parlant de ce qu'il appelait la magnétothèque, expliquait déjà que allait venir assez vite ce qu'on appellerait aujourd'hui les liens hypertextes et le web. Voilà. Évidemment, il ne décrivait pas le web à proprement parler ou l'Internet, mais il disait que les enregistrements électroniques allaient se multiplier, que tout ça allait être relié par des réseaux, etc. Et il tirait tout ça de son analyse de la très très longue durée de l'évolution, en prolongeant des courbes, d'une certaine manière, tout simplement. Voilà, moi j'affectionne ce genre de choses, disons que je fais partie des gens qui croient qu'il est tout à fait possible de faire des anticipations sur l'avenir, en ne faisant pas de la futurologie, c'est-à-dire en disant il y a des tendances, c'est un concept d'André Leroy-Gourhan, les tendances techniques, qui conditionnent l'avenir, mais ça ne veut pas dire qu'elles déterminent l'avenir. La condition, c'est pas une détermination. C'est une condition au sens où si elle n'est pas là, on ne peut pas faire la chose. Comme on dit, une condition sine qua non. Mais ce n'est pas une détermination. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, quand on connaît la condition, prédire ce qui va se passer. Par contre, on peut anticiper des possibilités, des matrices de possibilités. Et je pense qu'aujourd'hui, il est extrêmement important de s'attacher à ce genre de choses, parce que nous arrivons près, alors ça nous ramène à la collapsologie, nous arrivons très près de lignes de fracture, de ce que des physiciens que je cite dans ce livre appellent le shift, et de ce que, si on le dit dans le langage de René Thom, on pourrait appeler une catastrophe au sens mathématique du mot, c'est-à-dire un moment où se produit une très grosse bifurcation. Nous sommes au bord de ça, c'est pour ça que ça va mal, c'est pour ça qu'on se dit peut-être que dans les 5 ans qui viennent, la totalité de la planète va être dirigée par des régimes fascistes, ou plus ou moins, apparentés. Trump, Poutine, peut-être Madame Le Pen en France. Il y en a déjà qui sont installés, en Hongrie par exemple. Et ça vient, je crois que ça procède fondamentalement du sentiment que les gens ont que quelque chose se prépare de très 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 inquiétant et que personne ne fait quoi que ce soit pour s'en occuper. Et qu'à partir de là, les gens se rétractent dans des comportements régressifs. souvent en cherchant des boucs émissaires, évidemment, parce que c'est une manière d'évacuer l'angoisse. Et donc, les années qui viennent ne sont pas très joyeuses, à mon avis.
Influencé par l'école de Francfort ?
Influencé, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais en tout cas, je lis l'école de Francfort, bien sûr, beaucoup, depuis très longtemps, par ailleurs. Bah, de toute façon, si on en fait de la philosophie...
Il faut tout lire.
En tout cas, pour moi, les gens qui n'ont pas lu l'école de Francfort, qui sont philosophes, ne sont pas des gens sérieux, quoi. Je ne les prends pas du tout au sérieux. Ça ne veut pas dire que je partage tout ce qu'elle fait. Alors, en plus, c'est compliqué, l'école de Francfort, parce qu'il y a quand même des dimensions variées. Je considère moi que Walter Benjamin en fait partie, même s'il n'en fait pas partie objectivement, puisqu'il n'a jamais travaillé avec l'école de Francfort, mais il était à l'origine des idées d'Adorno. Disons que c'était un ami proche d'Adorno et de quelques autres. Et pour moi, Walter Benjamin, c'est une pensée majeure du XXe siècle. J'ai évidemment lu Adorno, beaucoup Adorno, un certain nombre d'autres. J'ai lu Habermas, qui est l'école de Francfort, je dirais, deuxième période, ou même peut-être troisième période. L'école de Francfort d'aujourd'hui m'intéresse moins, je la trouve beaucoup moins fortement charpentée, même si je vais avoir au mois de mai à Paris un dialogue au Goethe-Institut avec Hartmut Rosa. J'ai un peu écrit sur Axel Honneth ou des gens comme ça. Bon. Mais ce qui m'intéresse dans l'école de Francfort, oui, outre Benjamin qui n'est pas... Bon, Benjamin, c'est Benjamin, disons quoi. Mais disons qu'il y a trois choses qui m'intéressent. Dans l'ordre d'apparition de mon travail, si je puis dire, c'est d'abord Habermas, La technique et la science comme idéologie, qui a été vraiment un livre qui m'a fait beaucoup réfléchir, que j'ai critiqué. De toute façon, je critique à peu près tout ce que je lis, mais critiquer, ça, pour moi, ça ne veut pas dire récuser, ça veut dire énoncer ce qui me convient, ce qui me convient moins, disons. Ça a commencé par là. Ensuite, c'était Adorno, Horkheimer, et en particulier la dialectique de l'Aufklärung que j'ai utilisé et commenté dans plusieurs livres, mais sous des angles différents. Le premier, c'était sous l'angle de la critique de l'industrie de la culture, énoncé en 1944 pour la première fois. Le deuxième, c'était toute l'analyse qu'ils font de ce qu'ils appellent Dummheit, la bêtise en fait. Ça, j'en ai beaucoup parlé dans un autre livre, qui est un livre sur la philosophie contemporaine et comment elle a ou elle n'a pas su entendre justement l'école de Francfort sur cette question-là, c'est-à-dire la question de la bêtise, qui est à mon avis un sujet extrêmement important, qui a été négligé et même évacué. Et puis après, j'ai pas mal travaillé sur Marcuse, parce que j'ai pris très au sérieux, moi, la question de l'articulation entre capitalisme et économie libidinale. Mais en même temps, j'étais très critique sur les idées de Marcuse. À la fois, je lui rends vraiment hommage, parce que je pense qu'en 1953, il a eu des intuitions absolument foudroyantes dans « Héros et civilisation », qui pour moi sont le livre le plus intéressant. Enfin, de ce que j'ai lu, parce que je ne les ai pas tous lus. Mais ça, c'est vraiment un livre très très intéressant, parce qu'il voit venir, je crois, les problèmes que nous vivons aujourd'hui, qui vont être ensuite repris par Henri Lefebvre, et puis les situationnistes, Guy Debord et des gens comme ça, un petit peu plus tard. Voilà. 5 ans plus tard, en fait. Mais en revanche, en particulier dans L'homme unidimensionnel, qui est le livre de 68, hein, d'une certaine manière, c'était le best-seller, je parle du côté des étudiants, qui étaient 68 ans, ce qui n'était pas mon cas, hein, parce que moi, je n'étais pas du côté des étudiants, j'étais du côté des ouvriers. Donc, même si j'étais un lycéen à cette époque-là. Mais je me méfiais de la rue d'Ulm, un petit peu, voilà. Et des pro-chinois. Mais... Quoi qu'il en soit, l'homme unidimensionnel, pour moi, repose sur une lecture complètement erronée de Freud. Donc j'ai pas mal commenté Marcuse dans un livre, qui est le troisième tome de « Mes créances et discrédits ». C'est un livre qui s'appelle « L'esprit perdu du capitalisme », où je discute avec, d'une part, Luc Boltanski, son bouquin « Le nouvel esprit du capitalisme », et d'autre part, Marcuse. Et j'essaye de montrer que Marcuse n'a pas bien compris Freud. Parce qu'il oppose le principe de réalité au principe de plaisir. Jamais Freud ne les a opposés. Au contraire, il dit que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc je pense que là, il y a un immense malentendu. Et je pense que du coup, Marcuse et l'école de Francfort ont été rejetés par les, ce qu'on appelle la French Theory, Deleuze, Derrida, Foucault, tous ces gens-là. Mais que du coup, ces gens-là, avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, parce que eux, je les ai connus, eux, par contre, ils ont du coup jeté par-dessus bord, ou ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Et donc, ils ont perdu beaucoup de grandes questions. L'articulation entre, disons, philosophie marxienne d'un côté et psychopathologie freudienne de l'autre, à mon avis, ça reste à faire. Et d'ailleurs, je m'y emploie. Donc, j'ai bien l'intention de continuer à écrire là-dessus. Inch'Allah, comme on dit. Voilà. Ce n'est jamais complètement différent, et de toute façon, quand on identifie une rupture, par exemple, sur le plan historique ou archéologique, ou dans une série de phénomènes dans n'importe quelle discipline, on ne peut identifier une rupture que parce qu'on a d'abord identifié une série à l'intérieur de laquelle se produit une rupture. Donc il faut forcément qu'il y ait des points de comparaison, dans tous les cas. Mais après, il y a des points d'incomparaison, si je puis dire, ou d'incomparabilité. Mon travail de fond, disons que ma thèse, qui n'est d'ailleurs pas publiée intégralement encore aujourd'hui, parce que c'est un gros machin qui est en plusieurs volumes, donc j'en ai publié 3, mais il en reste encore 3 à paraître. C'est une thèse à l'ancienne, à l'époque où on faisait des très très grosses thèses. Ça n'existe plus ça maintenant, mais je continue à l'écrire. C'est-à-dire que j'ai repris beaucoup de choses que j'essaye d'actualiser un petit peu. En tout cas, cette thèse, elle porte sur le thème, le nom de la thèse, c'est la technique et le temps. Et donc, ce que j'essaye de penser, c'est ce qu'on appelle à la fois le temps phénoménologique, au sens de le temps de la conscience humaine, disons, c'est ça qu'on appelle chez Ricoeur, par exemple, le temps phénoménologique, et en même temps le temps historique, c'est-à-dire l'histoire au sens où Hegel commence à ouvrir la question d'une philosophie de l'histoire, etc. etc. Moi, je m'inscris dans cette tradition-là. Mais ce que j'essaye de montrer, c'est que pour appréhender ces formes de la temporalité, il faut prendre tout à fait originellement en compte les techniques. Voilà. Je suis un matérialiste dans ce sens-là. Et, bon, alors, je fais des articulations un petit peu inhabituelles, puisque j'articule Marx avec Husserl. Bon, en général, Husserl, c'est un transcendantaliste, Marx, c'est un matérialiste, donc en général, on n'articule pas ces philosophies entre elles. En réalité, moi, je suis convaincu qu'on peut très bien les articuler, et c'est ce que j'essaye de faire. Et j'articule ça aussi avec Heidegger, le philosophe, voilà, qui est un peu sulfureux, puisqu'il est passé par le nazisme, comme un certain nombre de grandes personnalités allemandes, d'ailleurs. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce sont ces pensées-là, Husserl, Heidegger, et d'autres, Ricoeur, etc., des gens qui ont essayé de penser ce que Heidegger appelait la Geschichtlichkeit, c'est-à-dire l'historialité, on traduit comme ça. Et ce que j'essaye de faire, moi, je ne suis pas heideggerien, je reprends des questions qu'il a ouvertes, mais pour les reprendre très différemment de ce qu'il a fait lui, ce que j'essaye de montrer, c'est que ce qui constitue une époque, par exemple, c'est toujours conditionné par une négociation entre deux grandes dimensions de la vie de l'espèce humaine, en particulier depuis le néolithique, parce qu'avant, c'était plus complexe, enfin plus complexe et plus simple, en tout cas c'est différent. À savoir que d'un côté, une société humaine suppose un système technique, et là j'emprunte ce concept de système technique à Bertrand Gille, un historien qui vient de l'école des annales, d'une part, et d'autre part, des systèmes sociaux. En fait, j'ai étudié ces choses-là, moi, à la fois avec l'histoire, donc Bertrand Gille, l'école des annales, etc., et d'autre part, l'anthropologie, l'ethnologie et la préhistoire, en particulier celle de le roi Gouran. Ce que j'essaye de montrer, c'est que ce qui crée une époque, ce qui fait une époque, c'est le fait qu'à l'origine d'une époque, il y a un choc. Alors ce choc peut se présenter de manière... Il peut être un choc qui paraît religieux, comme par exemple la réforme, ou qui se présente à travers... des mutations, je ne sais pas, l'occasion d'invasion, ou le développement d'une classe sociale, par exemple la bourgeoisie, tout ça. Mais en réalité, derrière, il y a toujours une technologie qui supporte ça. Par exemple, la réforme est évidemment liée, ça tout le monde le sait, à l'imprimerie. Ça ne veut pas dire que l'imprimerie est la cause de la réforme, bien entendu, mais ça, sans l'imprimerie, il ne peut pas y avoir la réforme. D'ailleurs, c'est Luther lui-même qui le dit, hein, c'est pas les historiens.
Bernard Stiegler est avec la complicité de l'Huma Café de Nantes, l'invité du magazine.
par exemple, la bourgeoisie, alors, qu'est-ce qu'on appelle la bourgeoisie? Si on le dit au sens de Marx, c'est plutôt 18e siècle, quoi. Si on le dit au sens, par exemple, de Jacques Le Goff aujourd'hui, c'est plutôt ce qui émerge au 13e siècle. Bon. Laissons de côté ces discussions-là. Dans tous les cas, c'est lié à des transformations techniques. Et ce que je soutiens, c'est que si on veut comprendre les faits humains, dans tous les cas, depuis l'origine de l'hominisation, c'est-à-dire il y a 3 millions d'années, il faut étudier les rapports entre la technique et le vivant humain, individuellement et collectivement. Et ces rapports deviennent de plus en plus complexes, et à partir du XVIIIe siècle, ils deviennent des rapports sociaux de production dans le capitalisme. Donc ça devient l'étude du capitalisme, en fait. Mais dans tous les cas, il faut bien comprendre que ces différentes transformations qui se produisent dans la succession des chocs technologiques, donc des changements de système technique, produisent des périodes de perturbation. Puis ces périodes de perturbation se stabilisent et atteignent ce qu'on appelle l'acmé, c'est-à-dire le moment optimal d'une société. Et puis ensuite, il y a une dégradation parce que le système technique commence à approcher de ses limites de fonctionnement. Ça, ça a été théorisé de manière vraiment précise et sur pièce, si je puis dire, par Bertrand Gilles dans son Histoire générale des techniques aux éditions de la Pléiade. Par exemple, il dit le système technique thermodynamique, c'est-à-dire la machine à vapeur, ça dure 70 ans, et il dit exactement quand ça commence selon lui. Et selon lui, ça commence par la rencontre entre James Watt et Matthew Boulton, c'est-à-dire un entrepreneur anglais. Et voilà, et ça commence à s'écrouler à partir du moment, dit-il, où on a voulu faire des machines qui dépassaient 5000 chevaux, des machines à vapeur. Et en fait, une machine à vapeur qui dépasse 5000 chevaux n'est pas du tout rentable. Parce que pour la servir, pour l'entretenir, ça coûte plus cher que le produit de son fonctionnement. Alors voilà, moi je me suis intéressé à toutes ces choses-là, qui sont un aspect de ce qu'on pourrait appeler la collapsologie. Comment, par exemple, le système thermodynamique entre bouleversement, à un moment donné, s'effondre. Voilà. Il y a un effondrement du système thermodynamique, tout à fait évident, qui est, grosso modo, entre 1850 et 1880, où l'électricité, la chimie, un certain nombre de choses comme ça vont venir complètement créer un nouveau système technique. Voilà, j'étudie les choses sous cet angle-là. Maintenant, ce que souligne d'ailleurs, dans ses tout premiers éléments, Bertrand Gilles, il faut bien voir que les systèmes techniques durent de moins en moins longtemps. Et ont des aires de diffusion de plus en plus vastes. Par exemple, le tout premier système technique, il est africain. Il ne sort pas d'Afrique, c'est l'Afrique australe. C'est le tout début de ce qu'on appelle le chopper. Les hommes sont, il y en a très très peu. Ils sont, on ne sait pas combien, bien entendu, mais c'est une toute petite communauté. C'est une espèce qui est en train d'apparaître, en fait. Une espèce d'un genre très particulier. On va appeler plus tard le genre humain, et non pas l'espèce humaine seulement. Et son système technique, eh bien, il va durer 1 million d'années. Parce que pour passer du galet éclaté, c'est-à-dire je cogne un silex avec un autre pour essayer de dégager plus ou moins une pointe, ce qui n'est pas si facile que ça à faire, hein. Si vous essayez d'en produire, je vous préviens tout de suite, vous avez intérêt à mettre des gants en cuir, parce que vous allez vous écraser des ongles, j'en ai fait, donc c'est vraiment pas évident de tailler ça. Mais pour passer de ça à ce qu'on appelle le biface, c'est-à-dire un silex qui est taillé des deux côtés avec deux tranchants, il faut 1 million d'années. Et ça concerne une aire géographique qui est une petite partie de l'Afrique. Voilà. Tandis que nous, voilà, par exemple, il y a 8 ou 9 ans, vous ne saviez pas ce que c'était qu'un réseau social. Et pour preuve, ça n'existait pas. Et aujourd'hui, il y a 1,5 milliard de gens qui sont sur un seul réseau social qui s'appelle Facebook. Et les réseaux sociaux semblent s'être emparés de tout. Je dis « semblent » parce que je ne suis pas sûr que ce soit pour très longtemps. En fait, moi, je ne crois pas à la durabilité de ce système-là. Mais ça ne veut pas dire que ça va se passer à quelque chose de mieux. Ça pourrait disparaître pour donner pire. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que si on fait la comparaison avec le passage du chopper au biface, c'est que là où, pour passer d'un système technique à l'autre, il fallut 1 million d'années, eh bien, pour passer du non-réseau social au réseau social, on passe, il y a 8 ans, il n'y avait pas de réseau social. Aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux de toutes sortes. Et il y en a un qui fait 1,5 milliard de membres. Donc, on voit qu'on a là affaire à une accélération absolument inouïe. Et le problème que pose cette accélération, c'est qu'elle laisse beaucoup, beaucoup de gens sur le carreau, de plus en plus. Non seulement elle laisse des gens sur le carreau, au sens où il y a des gens qui sont au chômage, même qui dorment dans la rue, etc. Et partout maintenant, dans le monde entier. Sauf peut-être en Suisse et dans quelques coins comme ça. Et encore. Thank you. tout à l'heure, j'étais en réunion avec des physiciens, avec des biologistes, etc. Les physiciens aujourd'hui sont largués vis-à-vis des possibilités que leur apporte la technologie. Ils n'arrivent plus à théoriser physiquement. Ils n'arrivent plus à suivre théoriquement l'articulation entre le vivant, par exemple, et ces technologies-là, produit comme évolution possible. Donc on est dans ce que j'appelle des vides juridiques et des vides théoriques qui donnent un sentiment complet de désorientation. Il n'y a pas que François Hollande qui est complètement paumé. Tout le monde est en fait complètement paumé, y compris les patrons de la Silicon Valley, parce qu'on a toujours l'impression qu'ils savent ce qu'ils font, que ce n'est pas du tout. Ils emploient des méthodes très très pragmatiques de ce qu'on appelle le développement agile, c'est-à-dire qu'ils provoquent des choses et ils font de la correction de trajectoire en permanence, mais ils ne savent pas ce qui va se passer non plus. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de stratégie, par contre, parce qu'ils ont tout à fait des stratégies et qu'ils sont très très délibérés en plus, et très réfléchis, avec des enseignements. Par exemple, la disruption dont je parle, la disruption, c'est enseigné à Harvard aujourd'hui. Voilà. Et je connais des centaines de gens qui sont devenus des consultants dans ces domaines, etc. Et ça crée beaucoup d'activités et de business. Maintenant, tout ça conduit à ce que j'appelle l'époque de l'absence d'époque. Ce n'est pas une expression qui vient de moi. En fait, elle a été employée dans les années 60 par Maurice Blanchot, qui était un des plus grands penseurs de la technique, Maurice Blanchot. Les gens sont surpris quand je dis ça, parce qu'ils connaissent Blanchot comme un écrivain très austère, et très, très mystérieux même, très difficile. Mais Maurice Blanchot, c'était un homme qui avait une immense culture philosophique, qui était aussi d'ailleurs engagé politiquement, d'abord à l'extrême droite, et puisqu'il a commencé vraiment aux côtés des croix de feu, des fascistes, et ensuite il est passé à la gauche, et même à l'extrême gauche. Il est à l'origine du manifeste des 121, voilà, pendant la guerre d'Algérie, et en fait il a fait un immense parcours politique. Mais c'était aussi un homme d'immense culture philosophique et scientifique. Et il a écrit beaucoup sur la technique moderne, des propos qui, à mon avis, sont ce qu'il y a de plus intelligent de tout ce que j'ai pu lire sur la technique moderne au XXe siècle. C'est vraiment absolument lumineux. Et c'est là qu'il dit que nous allons vers l'absence d'époque. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, il a une expression, il a une façon d'écrire un peu oraculaire, donc c'est jamais facile de savoir exactement ce que dit Maurice Blanchot, parce qu'en fait, il nous donne à réfléchir, plutôt qu'il ne nous livre des choses toutes réfléchies. Mais il parle de la technique comme d'une force impersonnelle qui va s'emparer dans un changement d'époque, dit-il, qui est en train de s'emparer du temps. Et je pense que ça, c'est ce que nous sommes maintenant en train de vivre. Et je m'y suis intéressé à travers un jeune homme qui s'appelle Florian, parce que ce jeune homme, pour moi, exprime brutalement et sans réserve et sans dénégation ce qu'en fait tout le monde pense, mais ce que tout le monde refoule. Puisqu'il dit, bon, j'ai lu ça un jour par hasard, en fait, parce que quelqu'un m'a envoyé un livre qui s'appelle « L'impensable ». J'ai donc essayé de lire ce livre parce qu'on me l'avait envoyé, donc il devait y avoir une raison. Et je suis tombé sur un moment dans le livre où celui qui écrit le livre parle de ce jeune homme, donc qui s'appelle Florian, qui est plus jeune que lui, qui est donc une génération en dessous, et qui lui dit « Mais vous ne comprenez rien à ce que pense ma génération. Nous ne rêvons plus. Nous savons que nous ne nous marierons pas, nous n'aurons pas d'enfants, nous n'aurons jamais de travail, nous n'avons aucun idéal, et nous sommes la dernière génération. » Et puis il ajoute, ou une des dernières avant la fin. Et ça, c'est en fait ce que pensent énormément de gens. Alors il y a beaucoup de gens qui le pensent, mais qui ne veulent pas savoir qu'ils le pensent. Parce que ça, c'est bien connu en psychiatrie ou en psychanalyse, ça s'appelle le déni et la dénégation. Et donc, ce sont des comportements extrêmement répandus, où on passe sa vie à essayer de démontrer qu'on ne veut pas ceci ou qu'on ne veut pas cela, et parce qu'en fait on le veut justement, mais qu'on essaye de se convaincre soi-même qu'on ne le veut pas, et convaincre les autres par la même occasion. Et ça c'est un problème, parce que la dénégation, c'est caractéristique de la névrose, mais le déni c'est caractéristique de la psychose. Et donc, et c'est pour ça que je dis que nous sommes entrés dans un capitalisme psychotique qui fait que, par ailleurs, les déjantages se multiplient dans tous les sens. Les conneries de Strauss-Kahn d'un côté, les passages à l'acte des massacres de masse d'un autre, les djihadistes, les votes extrêmes, ultra-destructeurs et autodestructeurs, enfin, on voit ça absolument de partout. Et ça, c'est l'expression de ce que Freud appelait la pulsion de mort. Ce que je crois, c'est que, en fait, tout ça, ce sont des symptômes d'un état de fait qu'il faut absolument soigner, qu'il faut renverser. Et alors, je tiens à dire une chose quand même, qui est vraiment très importante pour moi. Je ne crois pas du tout que la situation soit désespérée. Je pense que les gens sont désespérés. Moi-même, il m'arrive souvent d'être désespéré, parce que là, je me bats contre mon désespoir, comme plein de gens. Il y a plein de façons de se battre contre ça. Il y a des gens qui passent leur vie à regarder la télé ou à être sur leur réseau social et tout ça, à chatter ou je sais pas quoi. Ce qui est une manière de se tourdir, en fait, pour ne pas réfléchir. Mais dès que les gens se mettent à réfléchir, ils commencent à se poser plein de questions et parfois ils sont profondément désespérés, y compris moi. Ça m'arrive d'avoir des moments vraiment de désespoir. Mais je me bats contre ça et par ailleurs, je suis convaincu qu'il est absolument possible de changer cette situation. Mais que ça suppose un très très gros effort, je veux dire, oui, intellectuel. Quand je dis un très gros effort intellectuel, ça ne veut pas dire qu'il faudrait se mettre à aller étudier les philosophes, les mathématiciens ou les physiciens ou je ne sais pas quoi. Pourquoi pas, il faut certainement, ça ne fait jamais de mal de faire ça. Mais là, ce que je crois, c'est qu'il faut surtout être prêt à se remettre vraiment en question, très très profondément, dans tout ce qu'on fait, dans la manière dont on élève ses enfants, dans la manière dont on ne les élève pas aussi. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui n'élèvent plus leurs enfants. C'est pas, quand je dis ça, ce n'est pas un reproche que je leur fais. Ils ne peuvent plus les élever. J'ai moi-même ce problème. J'ai un petit garçon de 10 ans, il est capté par Minecraft et je me sens complètement démuni. Voilà, c'est très 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 difficile. Je ne vais pas interdire à ce petit gamin, ce petit garçon de faire ce que tous ses copains font. Mais comment on fait ? Voilà. Alors, moi ce que je crois que c'est qu'il faut se mettre à réfléchir collectivement. C'est pour ça que j'ai créé une association qui s'appelle Ars Initialis. J'ai créé une école, j'ai créé un institut. Je suis en train d'expérimenter sur un territoire en Seine-Saint-Denis de 400 000 habitants des nouvelles logiques avec des industriels. Parce que je pense que la question, ce n'est pas simplement de dire « Ah bah, le capitalisme » ou « Ah bah, la grande industrie », etc. Ça ne veut pas dire qu'il faille se priver de les critiquer, même de les combattre. Mais je pense que ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il faudrait raisonner. Moi, je discute avec des industriels, par exemple, qui pensent que j'ai raison. Et qu'ils cherchent à se remettre complètement en cause. Et ils cherchent à échapper à leurs actionnaires, parce qu'ils disent que c'est les actionnaires qui sont complètement fous. Et donc, il faut trouver des nouveaux jeux d'alliance. Il y a toutes sortes d'acteurs dans toutes les couches de la société qui sont un petit peu comme Florian, qui se disent « mais on ne peut pas continuer comme ça ». Il faut arriver à faire une espèce de pacte, voilà. Ça veut dire de paix. Hein. C'est une façon pacifique d'essayer de trouver des solutions. Non seulement je pense, mais je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de solutions. Nous disons à Ars Industrialis qu'il faut développer une économie de la contribution. Et pour le dire en deux mots un peu peut-être trop vite, il nous faut entrer dans une économie qui valorise non plus l'entropie, parce qu'aujourd'hui l'économie capitaliste industrielle est essentiellement ce qui valorise l'entropie. L'entropie étant ce qui contribue à la destruction de la vie. L'entropie, c'est le mouvement, du système dynamique que constitue l'univers vers l'homogénéisation de la température, c'est-à-dire le refroidissement généralisé et la disparition du vivant, tout simplement. À l'échelle de la biosphère, parce qu'on peut voir l'entropie à l'échelle de l'univers en totalité, mais on peut voir aussi l'entropie à l'échelle d'une localité qui est par exemple la biosphère, eh bien il y a des phénomènes qu'on appelle de négentropie, d'entropie négative qui se produit, c'est-à-dire des petites poches, la biosphère elle-même par exemple, qui rendent possible des phénomènes où au lieu de faire que l'entropie se développe sans limite, comme dissipation de l'énergie et homogénéisation de tout, eh bien au contraire il y a des processus de différenciation qui se produisent.
Merci à Bernard Stiegler, l'auteur de « Dans la disruption, comment ne pas devenir fou ?» et c'est paru aux éditions Les Liens qui Libèrent, pour sa libre participation à ce reportage réalisé avec la complicité de l'Huma Café de Nantes.
Et ça suppose aussi de repenser très très en profondeur ce que c'est que l'économie, ce que c'est que l'éducation. Dans un contexte qui par ailleurs est aussi le contexte de ce qu'on appelle le transhumanisme et toutes ces choses-là, où on est capable maintenant de faire énormément de choses un peu horrifiques, hein, quand on y pense. Moi, je suis un combattant du transhumanisme, contre le transhumanisme. Hein. Je pense que le grand danger, maintenant, il est là. Parce que ce sont des gens qui veulent créer une oligarchie qui repose sur des sous-hommes par milliard et quelques hommes d'êtres d'exception par milliers. Voilà. Et c'est ça qui est en train de se préparer. Et ça se prépare dans des laboratoires avec des savants. Et c'est extrêmement important de mobiliser l'opinion publique contre ça, mais aussi de mobiliser les savants, justement, ou les scientifiques, ou les philosophes, et puis tous les gens de bonne volonté, pour produire autre chose avec cette technologie.